Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce. Dare I ask?
She's a detective.
Good God, another one.
I'm trying to save a girl's life.
And what can we do?
We. Is he looking back?
Are you gonna be my girl? Enola Holmes 2, film de Harry Bradbeer avec Millie Bobby Brown, Henry Cavill et aussi Helena Bonham Carter. Tiens donc. C'est sorti sur Netflix et plein de gens l'ont vu. Justin l'a vu. Léa l'a vu. Non, Justin l'a absolument pas vu. Je suis désolée. Justin
l'a vu. J'ai détesté le premier. Donc,
parce que t'étais prêt à bondir, donc je me suis dit que tu l'avais vu. Nam l'a vu, également François, également Léa. Qui le présente? J'ai pas suivi la discussion. Léa.
Dans Enola Holmes 2, on suit Enola qui est maintenant bien installée à Londres, qui a son agence de détective et qui peine un peu à trouver des clients car elle vit dans l'ombre de son frère, le grand Sherlock, joué par Henry Cavill. Et du coup, elle doit faire ses preuves hein, parce que c'est une jeune fille. Je ne sais pas exactement quel âge elle a, mais elle doit avoir moins de 20 ans. Oui. Et du coup, bah, elle veut aider son prochain. Donc, elle va prendre une enquête avec une jeune fille qui s'appelle Bessie et qui travaille en tant que fabricante d'allumettes dans les usines des bas-fonds de Londres, dans le Londres victorien. Et on va suivre cette enquête palpitante. Voilà.
Nam, tu attaques sur ce que tu en as pensé ? Tu attaques directement ? Je crois que tu l'as bien aimé.
Bah oui, moi j'ai bien aimé ce film-là. Je trouve que l'enquête était plutôt sympathique. Les rapports avec Sherlock étaient mieux exploités aussi dans ce film-là, je trouve. Notamment avec le fait que leurs deux enquêtes se rejoignent. Mm. Là où dans l'autre, bah, c'est plus Helena fait ses trucs, puis des fois il y a Sherlock qui pop et il dit bah non, tu fais pas ça. Leur relation a un peu évolué. Et bah, tu disais, voilà, elle est toujours dans l'ombre de Sherlock. C'est-à-dire qu'en fait, bah, l'enquête qu'elle avait résolue dans le premier film, c'est pas elle qui en a tiré les lauriers, c'est tout le monde pense que c'est Sherlock qui a résolu cette histoire. Et donc là, oui, bah là, c'est sa première, du coup, grosse enquête en solo. Et en fait, dans le film, ce qui est plutôt marrant, c'est sa première grosse enquête en solo, c'est le film où elle doit se faire connaître et se révéler qui elle est, etc. Et en même temps, dans le film, elle va devoir apprendre à travailler avec d'autres personnes et à accepter de l'aide. Et que oui, les désirs d'indépendance de sa mère sont très bien, mais sa mère, elle vit comme une clodo toute seule maintenant, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Ouais. Et donc voilà, après, il y a tout un truc, voilà, il y a Moriarty qui apparaît dans le film, bon, je fais, ah bon, ils nous mettent Moriarty dans ce film-là, c'est pas un foreshadowing pour le troisième, non, le personnage est présent, et avec des trucs qui sont plutôt intéressants, bon, moi j'avais pendant le film, moi je me posais la question, cette Sarah Chapman qu'elle n'arrête pas de chercher, pourquoi ce nom me dit quelque chose? Ça parle d'être d'un faux nom, tu vois. Et je l'ai vérifié, et en effet, il le précise à la fin du film, mais en effet, c'était une vraie activiste du 19e siècle qui a lancé, alors pas culp, mais qui a lancé un mouvement de grève dans une usine de fabrication de boîtes d'allumettes. Enfin, d'allumettes. Donc c'est un vrai personnage historique pour le coup, voilà. Ça au moins je trouve ça sympa, j'ai appris un truc.
Je savais pas du tout que c'était un truc vrai, mais du coup c'est encore mieux. La gauche gagne à la fin,
oui.
C'est génial.
Et c'est une figure historique, apparemment ce serait la première, comme ils disent à la fin, c'est la première grève qui a été organisée par des femmes pour des femmes, et apparemment plus qui a abouti, c'est-à-dire que ça a permis en effet de leur donner tout un certain nombre de droits civiques, parce que bon voilà, ils en parlent bien entendu dans le film, mais... Parce que c'est l'Angleterre, c'est le Londres victorien, hein, t'as pas une période autant corsée du cul que celle-là, où bah, tout est extrêmement codifié, elle a toujours là, son copain Lord, il y a des moments du coup où elle est dans la... Enfin elle débarque dans la vie des Lords, et bah et à un moment c'est tout con, elle veut parler à un mec, et on lui dit bah non mais t'as quelqu'un qui t'accompagne? Non. Mais tu penses vraiment que tu vas pouvoir parler avec quelqu'un
T'as pas de chaperon.
T'as pas de chaperon. On se croit dans les chroniques de Bridgerton.
Visuellement, j'ai trouvé que le film était un petit peu dans l'esprit du premier en termes d'esthétique, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation énormément de montage de scènes, par exemple quand elle réfléchit pour essayer de résoudre les choses, aussi des petites animations qui sont faites avec les illustrations du journal, des, un petit peu de motion design et des trucs comme ça. Je trouvais que c'était beaucoup mieux utilisé que dans le premier, ouais. Et beaucoup plus abouti. Et aussi, je sais que Justin avait un petit problème avec les fonds verts dans le premier film, parce que le film était un peu synthétique. J'ai trouvé que le film là était quand même visuellement un peu plus,
ouais, c'est plus joli, hein.
Je sais pas s'il y a une hausse de budget ou si tout simplement l'équipe retravaillait ensemble, peut-être que ça a été mieux géré, mais j'ai trouvé que la qualité visuelle de la reconstitution en général était de meilleure qualité que dans le premier. Après, je trouve que quand même le film perd un petit peu de l'effet de fraîcheur du premier. Il y a forcément
c'est
comme c'est le même principe, le même type d'enquête, mais comme tu disais, je trouve ça sympa qu'ils aient relié finalement une enquête de Sherlock et une enquête d'Enola Holmes, quoi, finalement, que les deux se rejoignent. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais sur la dimension un peu féministe du film finalement, puisque forcément on a une jeune héroïne au 19e siècle, donc on n'échappe pas forcément à ça. J'étais un petit peu surpris que le film esquive d'autres sujets, parce qu'en fait, donc là, Moriarty, pour le dire, à la fin est une femme noire en réalité. Et elle fait tout un speech en disant, mais vous savez, en tant que femme c'est difficile. Par contre, elle adresse jamais le fait qu'elle est noire. C'est-à-dire ça, c'est jamais un obstacle dans sa vie. Au 19e siècle à Londres.
C'est très Bridgerton dans ce sens-là. Voilà. C'est vraiment,
on dirait que c'est le même casting.
C'est complètement la même chose que Bridgerton. Ouais. C'est tout. Il y a beaucoup de personnages qui sont pas blancs. Et c'est complètement.
Mais c'est peut-être du colorblind casting, quoi.
Après, ceci dit, l'Angleterre, c'est pas les États-Unis.
Oui, tout
à fait. On est quand même dans la civilisation.
Ils sont pas dans des hautes sphères, mais ils s'intègrent à la vie quotidienne, ils ont des métiers,
Après, c'est vrai que Londres, à cette époque, ça faisait déjà plusieurs siècles, c'était une ville multiculturelle, avec des gens du monde entier qui allaient.
J'ai trouvé ça étonnant que de mettre, je trouve ça pourrait être un geste fort de mettre Moriarty en tant que personnage de femme noire, et ils adressent que le fait que ce soit une femme. Voilà, c'est tout. Moi, ça m'a un petit peu perturbé, mais j'aurais trouvé ça plus intéressant que... Justement, que ça fasse encore une différence entre être une femme et une femme noire, c'est pas forcément...
Mais après, c'est vrai que c'est les productions... je sais pas si c'est vraiment une production anglaise, mais on parlait des... C'était les Chroniques de Bridgerton. Dans les Chroniques de Bridgerton, ils n'ont rien à péter de l'origine ou des personnes.
Mais après, est-ce que c'est l'anachronisme, il l'assume ou c'est...
Alors, il l'assume complètement. Mais après, je pense que c'est aussi une décomplexion dans les productions anglaises. Ils sont en mode, écoutez, c'est pas parce que ça se passe en tel siècle que tout le monde il doit être blanc.
Ils ont fait Les Misérables avec un Javert noir.
On prend les acteurs qu'il faut.
Il y a les films
de
Kenneth Branagh, il adapte Shakespeare, il y a des noirs, des blancs, alors que c'est censé se passer dans des époques.
Quand tu ambitionnes de parler de problématiques sociétales qui ont eu une réalité historique, et que tu n'adresses que une partie de ces problématiques-là, qui est la partie sociale et la partie homme-femme, je trouve que tu perds finalement un sujet.
Ouais. C'est vrai qu'après, là, le centre du film, c'est la Sarah Chapman et la grève à la fin qui arrive. C'est vraiment tout tourne autour de toute façon de cette usine de fabrication d'allumettes. Et donc après, c'est vrai qu'on s'était... Bon, je comprends aussi qu'ils aient voulu resserrer le truc sur... Bon, on en parle déjà de ce sujet-là. On peut pas tout faire non plus. J'ai bien aimé le méchant, sinon. Pas Moriarty, l'autre.
Lupin. David Chulis.
C'est ça.
David Chulis, c'est ça. J'ai cherché son nom.
Le commissaire Grail.
Voilà. C'est ça, Grail, qui joue... qui fait encore un mec chelou. En même temps, dans Harry Potter, il était déjà un mec chelou, parce que bon, c'était...
Oui, mais gentil. Là,
il était gentiment chelou, là, il est méchant
chelou.
Quelques films,
il est que méchant, David Chulis, là.
Et qui, pendant tout le film... Alors, il y a un truc avec ce film aussi, avec l'image de l'œuf qui se pète, là. Il a plus d'œuf à la fin du film, ça, c'est sûr.
Ça, c'est ce que je disais sur les effets de montage. Il y a des effets de montage dans le film qui sont assez astucieux.
Je me rappelais plus que... Enola Holmes, c'est déjà dans le premier qu'elle se retourne beaucoup vers nous et qu'elle nous parle beaucoup.
Oui, il y avait ça beaucoup dans le premier.
Tu sais, oui.
Parce que là,
dans Malcolm.
Mais dans celui-là, du coup, je l'ai redécouvert et je trouvais que c'était plutôt bien fait aussi, la manière dont il nous inclut. Surtout que c'est souvent quand elle nous regarde, soit on va passer soit directement après à l'avance sur quelque chose, soit il y a quelqu'un qui arrive et hop, il y a
après,
machin qui
en,
me parle.
En termes de pur rythme, je trouve la première moitié un petit peu mollassonne. Ça commence par une scène d'action et en fait on va revenir jusqu'à cette scène d'action qui était un flashback. Je trouve le dispositif un petit peu usé. Et au début, en fait, l'enquête.
On a déjà trop vu, en fait.
Au début, l'enquête, elle trouve vraiment très peu d'indices. Et en plus, on parle de l'enquête de Sherlock entre parenthèses, puisque. En parallèle, pardon. Puisque les deux vont se rejoindre. Et du coup, je trouve qu'on a l'impression que ça n'avance pas beaucoup. Par contre, dans la deuxième moitié, effectivement, là, je trouve que le rythme, après, on va dire la prison, quoi. Après ça.
Alors, j'avais une question, comme tu parlais des scènes, puisque c'est un des trucs que j'avais trouvé vraiment nul dans le premier. C'était les scènes où. On voit son cheminement, sa réflexion, quand elle remonte des indices ou elle réfléchit à. Et j'avais trouvé ça vraiment, c'était belle, c'était même, c'était, ça copiait-collait un peu en moins bien les Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. C'était une espèce de montage pour suivre le... Et c'était assez nul, alors que moi, je pense à un film qui faisait ça, c'était les films de Tuerk, la Détective D. En fait, c'est la mise en scène qui faisait remonter le fil de sa réflexion, il y avait des plans séquents, et alors
non,
que là c'était vraiment du montage, c'est le même principe. Bon.
C'est du montage avec un peu de motion design et trucs comme ça. Après, j'ai trouvé que c'était plus abouti que dans le premier film.
Okay. Oui, il y a un côté dessin aquarelle, bah, tu vois, c'est elle qui se représente le truc dans sa tête. Et non, ça marche plutôt pas mal.
Mais de manière générale, je l'ai trouvé quand même beaucoup mieux que le premier. Enfin, à mon sens, parce que déjà, le récit était plus cohérent, plus construit. Les personnages étaient mieux. Il y avait plus d'interactions intéressantes entre Sherlock et sa sœur. Ça, j'ai trouvé le rapport hyper mignon parce qu'il y a une évolution. Tu comprends que Sherlock, il est hyper fermé au début. Dans le premier film aussi. De toute façon, ils avaient abandonné leur sœur. Les deux, ils s'en fichent un peu. Et là, il y a quand même une vraie progression. Et en plus de ça, ouais, je trouvais le rythme mieux maîtrisé que dans le premier. C'est vrai que le début est un peu plus lent. Mais après, ouais, ça se suit, ça va assez vite. Le film fait quand même bien 2h, 2h10 même, je pense. Et je les ai pas sentis passer. Donc, à mon sens, je les ai vus les deux à la suite. J'ai quand même beaucoup plus aimé le deuxième.
On conclut sur une bonne suite en attendant le troisième.
Bah, a priori, oui, a priori, il y aura encore une suite. Je sais pas, ils en sont à combien des livres? Parce que c'est des livres à la base, non?
Oui.
Oh, à mon avis, il y a encore de la matière.
Oui.
Ça dépend si Henri Cavill est dispo.
Exactement.
Ouais, il peut le remplacer, ça a déjà été fait.
Ce sera Liam même soir.
C'est
Liam même soir, ce qui jouera Sherlock Holmes dans le prochain. Ah,
Léa ne regardera pas.
Ah, bah non, là, c'est fini.
Merci beaucoup à vous.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.